si vous le voulez bien, nous allons commencer par réciter cette prière que l'on retrouve à la fin de la petite brochure intitulée « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage » à la page 40. Père bien-aimé, tu nous ouvres, quand on aime, les richesses de ton Esprit Saint. Et tu fais grandir en nous ta propre vie, en nous donnant part au corps de ton Fils. Aide-nous à nous comporter dans le monde avec une vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu. Que nous sachions collaborer par la sainteté de notre vie, par un témoignage constant et la proclamation de ta parole, à cette indispensable mission prophétique, pastorale et communautaire en Église. Qu'ensemble, nous puissions bien accueillir ce nouveau printemps ecclésial que tu nous offres et devenir toujours rayonnants de ta vérité et de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pendant tous les siècles des siècles. Mes bien chers amis, bonjour, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Il me fait particulièrement plaisir de vous accueillir à cette séance d'enregistrement d'un enseignement intitulé « Forces et faiblesses actuelles de notre Église post-conciliaire ». Cet enseignement se situe dans le cadre de cette mission prophétique, pastorale et communautaire en Église, dont l'annonce a été faite déjà le 15 août dernier, 15 août 1984, dans la brochure « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage ». Et cette mission a pour but de nous inviter tous à travailler à fond ou au fond, à ce renouveau spirituel encore plus considérable du renouveau institutionnel en cours en Église depuis la fin de Vatican II. Aujourd'hui, ce sont les deux premiers enseignements, les deux premières causeries d'une série éventuelle de 6 environ. Vous avez reçu, à l'entrée dans cette salle, et vous qui écouterez les cassettes, deux choses, un petit feuillet couleur orange, intitulé « Un paratonnerre à 10 branches », et je vous engage à le lire le plus tôt possible avant de passer à l'écoute de cet enseignement, mais vous avez surtout reçu un feuillet en couleur, présentant 7 illustrations, nous faisant réfléchir sur l'originalité ou les particularités d'un système de production hydroélectrique. Je tiens à souligner immédiatement que vous qui recevez la cassette, vous recevrez ce dépliant en 5 exemplaires, car il est indispensable pour suivre l'enseignement. Et je vous engage à ne pas les perdre de vue. Vous pourrez les prêter, les faire circuler, mais pensez à les garder, car ils vous seront nécessaires pour la 3e, 4e, 5e et 6e causerie. Alors, pour ne pas vous laisser tenter par le goût de jeter un coup d'œil pendant que je vais commencer l'enseignement, ensemble, tout bonnement, si vous voulez, on va jeter un premier regard. Qu'est-ce que ça contient? Regardez à l'intérieur l'illustration numéro 1. Ça nous donne l'image d'une centrale hydroélectrique. On voit très bien en haut ce réservoir d'eau. On voit ce barrage. On voit au pied du barrage la centrale hydroélectrique. On sait que l'eau du réservoir passe dans les turbines à l'intérieur de cette centrale. Et si vous notez bien à gauche, on voit le début là des lignes de transmission qui vont s'en aller vers les villes et les villages porter l'électricité. Dans la deuxième illustration, on a là une explication très originale et très simple des grandes étapes de la production de l'électricité. D'abord, c'est l'étape qui se déroule au niveau du barrage et de la centrale. C'est là que se produit l'électricité, à l'étape numéro 1. Après ça, cette électricité, et passons à l'étape numéro 2, est transportée à haute tension vers les villes, vers les endroits où on a une demande d'électricité. Et troisième étape, à l'entrée des villes, on diminue la tension dans les fils pour en faire la distribution dans les maisons. Passons à l'illustration numéro 3. C'est une vue rapprochée, en gros plan, de ce qu'on appelle un réseau de transport d'énergie. Vous voyez là cette multitude de pylônes, de fils, de lignes de transmission, d'appareils nécessaires à la transmission. L'illustration numéro 4 nous donne une vue de l'ensemble du barrage et réservoir de LG3 dans le nord du Québec, près de la baie James. Et là, si on regarde attentivement, on voit encore un immense réservoir, un très long barrage. Au pied, on voit à peu près au centre de l'illustration la centrale hydroélectrique. On voit à gauche, là où est le filet d'eau blanche, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle, et on le voit en plus gros plan juste en dessous, à l'illustration numéro 6, ce qu'on appelle un évacuateur de crue. Quand le réservoir vient trop plein, eh bien pour ne pas qu'il soit détérioré, on laisse passer de l'eau comme ça. Cette eau ne passe pas donc dans la centrale ni dans les turbines. On voit à l'illustration numéro 5, l'intérieur de la salle de commande de LG3 avec cette douzaine d'appareils hydroélectriques, de génératrices, de générateurs qui se trouvent directement au-dessus des turbines. Et finalement, tournons vers la fin du feuillet, on a une illustration fort bien expliquée de ce qu'on appelle le couple turbine-génératrice. Vous voyez où est le chiffre 1? C'est l'entrée de l'eau qui descend du réservoir à toute pression, avec toute fait tourner la turbine. La turbine tournant très vite fait tourner l'axe numéro 4 qui est au centre et déclenche évidemment la mise en marche de ce qu'on appelle un générateur ou une génératrice qui génère l'électricité. Donc la turbine et de la grosseur suffisante pour faire tourner la génératrice qui produit l'électricité. Je vois que vous regardez sur les petits feuillets, mais qu'en même temps, vous pouvez regarder sur le théâtre ces posters, ces illustrations d'un mètre carré qui permet de voir très bien ces illustrations. Alors, on met ça de côté, si vous voulez bien. On aura l'occasion d'y revenir à plusieurs occasions. Et je vous demande, surtout si vous me permettez une petite suggestion de prudence à mes amis automobilistes, je sais que j'ai plusieurs auditeurs et auditrices qui ont pris la bonne habitude d'écouter les cassettes d'enseignement sur la route. Alors je vous suggère de vous arrêter pour regarder les illustrations et à chaque fois qu'il en sera question, ne risquez pas votre vie ou celle des autres. Je vous demande au nom du Seigneur, soyez bien prudents. Et avant d'entrer directement dans l'enseignement, une dernière chose, je me dois d'adresser un merci tout spécial à ceux et à celles qui m'ont permis de regrouper ces belles illustrations. Et évidemment, j'adresse mon hommage particulier à cette entreprise de chez nous, l'Hydro-Québec, qui a facilité ce travail. Et sachant fort bien que je demandais cette collaboration pour faire un enseignement pour la gloire de Dieu et le progrès de l'Église. Alors, allons-y, mes amis. Le plan général comprend 4 parties et une série de conclusions. Nous allons immédiatement à la partie numéro 1. Dans cette partie, nous allons essayer de voir en parallèle, immédiatement, puisque c'est le titre, ce qui constitue tant la force que la faiblesse actuelle de notre Église, 20 ans après le grand concile œcuménique de Vatican II. La force d'abord. Depuis le concile Vatican II, lequel, on s'en souvient fort bien, a été convoqué par Jean XXIII, a réuni à Rome environ 3000 évêques et 450 experts de tous les pays du monde et dans toutes les disciplines ecclésiastiques. Ce concile, qui s'est tenu durant quatre sessions d'automne en 1962, 63, 64 et 65, depuis ce concile, de généreux, heureux et fructueux efforts ont été faits pour assurer en Église et à l'Église une meilleure présence au monde, un engagement encore plus sérieux des chrétiens et des chrétiennes à l'évangélisation de ce monde moderne. Parmi les 16 grands documents officiels du Concile, celui qui est intitulé « L'Église dans le monde de ce temps », qu'on appelle également la Constitution Gaudium et Spes, en français « Gaudium » veut dire « joie » et « Spes » « espérance », ce document a battu la marche dans ce sens. Il y a eu d'autres documents, comme par exemple celui sur l'apostolat des laïcs, sur les moyens de communication sociale, le ministère des prêtres, la vie religieuse, la charge des évêques, etc. Mais ces documents ont tous, chacun à leur manière, incité tout le peuple de Dieu, en tant que communauté des disciples du Christ, et je reprends là textuellement le tout premier paragraphe de Gaudium et Spes, en tant que communauté des disciples du Christ, à assumer les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des humains de ce temps. Il n'est rien d'humain qui ne doit trouver écho dans le cœur d'un chrétien. La communauté chrétienne, est-il rappelé, et je continue la même citation, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Fin de la citation. L'aggiornamento, ou si vous voulez, le renouvellement de l'Église proposé par Jean XXIII, s'est donc amorcé et poursuivi intensément depuis Vatican II, toujours avec cette forte conviction que l'Église avait un message de salut à proposer à tout le monde, et que pour ce faire, il fallait que l'Église puisse démontrer sa solidarité, pas seulement affective, mais effective, avec le genre humain et son histoire. Donc, mes amis, chapeau bas devant tout ce qui s'est fait et se poursuit encore d'ailleurs, malgré d'évidents risques, lacunes et déviations parfois, dans le sens d'un vrai renouveau ecclésial. Si vous voulez reprendre l'illustration, le feuillet, jetons un coup d'œil sur l'illustration 2. Il nous donne les trois étapes de la production de l'électricité. Eh bien, toute comparaison faite en Église, on s'est donc concentré principalement sur les étapes 2 et 3. Le transport et la distribution de la bonne nouvelle au monde. Comme on nous avait reproché comme Église de ne pas être assez engagée, assez solidaire, assez présente, partout, au lendemain du Concile œcuménique Vatican II, on s'est posé la pertinente question, comment se fait-il que le message de salut dont nous sommes les fidei commissaires ne passe pas mieux dans le monde, ne se rend pas comme il le devrait dans tous les milieux, dans tous les secteurs de notre société? Et alors ce fut, comme je le décris aux pages 4 et 5 de la brochure « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage », une course effrénée à la recherche de nouveaux moyens d'évangélisation et d'apostolat. On a commencé d'abord par fouiller et inspecter l'Église et tenter de repérer ce qui en elle pouvait peut-être obstruer le souffle de l'Esprit. Puis on s'est appliqué, fort heureusement et fort courageusement, à imaginer comment son souffle pourrait le mieux atteindre à travers nous tous les coins et tous les recoins du monde. Toute cette recherche a alors déclenché deux choses. D'abord, une multitude de réformes dites institutionnelles en Église. Et on a vu le Saint-Siège, les diocèses, les communautés religieuses, les paroisses, les institutions diverses, à qui mieux, réviser tout ce qui concerne leur structure, leur règlement, leurs priorités, leur mission, leur ministère, leur mode de fonctionnement. Et on a vu ensuite se dresser en Église une vaste forêt de pastorales de toutes sortes, toutes nouvelles, ou revues et corrigées. Et lâchons un coup d'œil sur l'illustration numéro 3. Avec un peu d'imagination, ça nous illustre là, cette sortie de terre de toute une forêt de modes nouveaux de transmission, de lignes de contact destinées à transmettre la bonne nouvelle au monde. Et avec une ardeur édifiante, avec les meilleures intentions au monde, des succès nombreux et évidents, on a vu énormément de nos efforts, beaucoup de nos efforts, de nos sessions, de nos recherches, de nos écrits, de nos priorités en Église, se concentrer tout à coup, avec ardeur, sur ses meilleurs moyens de transmettre la bonne nouvelle à tous et à chacun. Jeunes ou âgés, bien portants ou malades, pauvres ou riches matériellement, démunis ou comblés au point de vue de personnalité, milieu de vie, affectif, etc. Bien entendu, et je le souligne d'ailleurs dans la brochure « Église, évangélise-toi », il faut admettre, entre nous soit dit, que dans toutes ces réformes, tout n'est pas béatifiable ou béatifique. Tout n'a pas été nécessairement inspiré et voulu par l'Esprit Saint du Seigneur. Il y a même eu, avouons-le, non seulement dans certains cas de réformes institutionnelles ou autres, de l'improvisation et de la précipitation. Souvent, un peu d'illusion, de défoulement ou de projection, et parfois même, un peu de saccage et de vandalisme. Mais grosso modo, j'admire, j'apprécie, et avec vous, je complimente tous ceux et celles qui ont sérieusement poursuivi avec et pour le Seigneur, dans la prière et le discernement spirituel communautaire en particulier, cet urgent besoin de renouveau et d'adaptation de notre Église. Je crois sincèrement, et vous aussi sans doute, que maintenant, notre Église, plus que jamais auparavant, s'intéresse vraiment, s'implique activement et s'associe facilement aux causes humaines où elle se doit de porter la lumière, l'amour et la force du Seigneur. Bravo, bravissimo, et on n'a pas fini. Voilà donc, mes chers amis, où se situe, à mon humble avis, la plus grande force actuelle de l'Église. Revenons à l'illustration numéro 2. Cette force se situe en aval, donc à l'étape 2 et 3, en bas du barrage et de la centrale, au niveau des lignes de transmission. Je note ici en passant que dans le mot pastoral, j'inclus évidemment tout ce qui a été fait en Église pour un meilleur contact, engagement, comme l'adaptation des communautés religieuses qui ont redéfini leur mission, leurs œuvres, les individus, évêques, prêtres, religieux, religieuses et laïcs, qui ont modifié leur style de vie, leurs priorités, leurs procédés, pour se sentir plus en contact, plus engagé et plus près du monde. C'est donc, encore une fois, je ne peux pas assez, mais je tiens à l'enregistrer, dans, je dirais pour l'éternité, encore une fois, bien sincèrement, je tiens à faire l'éloge de tous ceux et celles qui non seulement ont travaillé et à préciser et à appliquer toutes ces nouvelles pastorales, mais aussi l'éloge de tous ceux et celles qui partout s'évertuent, s'époumonnent et se désarment encore pour rendre l'Église présente et engagée dans le monde. En termes d'entreprise hydroélectrique, disons donc que l'Église, depuis Vatican II, s'est équipée d'un réseau complet de transport d'énergie spirituelle possible. Illustration numéro 3. Ce réseau, on le destine à tous. On a donc fait un filage complet jusqu'au bout. Et à la vérité aujourd'hui, quiconque, sincèrement, veut apprendre, veut connaître le message du Seigneur, veut être rejoint, atteint, libéré, converti, animé ou réanimé, peut l'être. C'est où? Où il doit s'adresser? L'Église est maintenant équipée pour se rendre à domicile. Elle peut aller jusqu'à chacun et chacune, comme elle n'osait pas le faire avant. Et elle peut y aller sans pour autant s'imposer à lui ou à elle, comme peut-être elle avait tendance à le faire autrefois. Et à ce propos, je n'hésite pas d'ailleurs à constater et à partager avec vous qu'à mon avis, il y a plus de croyants, plus de priants, plus de pratiquants, plus de témoignants qui le sont librement, en connaissance de cause, avec goût et enthousiasme, que jamais auparavant il y en a eu chez nous. Voilà, mes chers amis, où se situe la grande force de notre Église post-conciliaire, 20 ans après Vatican II. Maintenant, passons au deuxième volet. Tâchons de voir où se trouve, par ailleurs, la grande faiblesse actuelle de l'Église. Vous savez, il faut bien l'admettre, malgré nos sincères intentions et les efforts inouïs dont je viens de parler, l'effort inouï pour renouveler l'Église, la rendre plus présente et mieux engagée dans le monde, il faut bien admettre que 20 ans après Vatican II, qui s'est terminé en 65, l'Église, dans son ensemble, demeure encore bien loin d'être à la pleine hauteur de sa vraie mission spirituelle. Et cela en mains endroits de l'Église, et même parmi les plus prestigieux parfois, comme j'ose l'écrire à la page 6 de la brochure. Qu'est-ce qui lui ou nous manque donc au juste pour que cette Église prophétisée par Jean 23 finisse par avoir plus d'impact et tout le leadership auquel elle est en droit et en devoir de s'attendre? Qu'est-ce qui lui ou nous manque pour qu'elle obtienne la rentabilité spirituelle significative qui lui incombe dans notre monde d'aujourd'hui? Tant d'efforts et toute proportion gardée, beaucoup moins de résultats. Eh bien, mes chers amis, je viens aujourd'hui vous partager à cœur ouvert certaines de mes réflexions et observations des 10 dernières années, et celle de tous nos milliers de collaborateurs et collaboratrices au niveau des deux fondations. Nous sommes tous d'accord, si paradoxal que cela puisse sembler, que c'est précisément en voulant, et très sincèrement, développer notre force, celle que je viens de décrire, que nous avons peut-être, hélas, provoqué, sans nous en rendre compte, notre faiblesse actuelle. Cette faiblesse actuelle qui, à son tour, menace sérieusement notre force éventuelle dans l'avenir. Comment ça s'est produit au juste? Je m'explique. C'est que, en investissant avec, je le répète, la plus grande sincérité du monde, tant de nos efforts, de nos recherches, de nos moyens, de notre personnel, de nos ressources, de notre temps, à repenser notre approche et notre présence au monde, nous avons, en même temps, trop, beaucoup trop, négligé, toute proportion gardée, d'approfondir et d'adjornamenter, si vous me permettez l'expression, notre approche et notre présence au Seigneur, en tant que berger et pasteur. Nous avons bel et bien haussé la qualité de nos pastorales, et c'est indéniable, mais pas assez celle de nos pastorales. Le message est encore transmis partout en Église, oralement et par écrit, c'est vrai, mais il a perdu, semble-t-il, et il perd encore, semble-t-il, son mordant, son percutant, son attrayant et, chose certaine, son transformant en beaucoup trop d'endroits. On a multiplié les déclarations, les initiatives, les comités, les listes de priorités, mais dans bien des cas et dans bien des milieux, autant en emporte le vent. On s'essouffle, oui, c'est évident, mais son souffle à lui ne passe pas toujours. Comme je l'ai dit, on a prévu tous les réseaux possibles et impossibles de transmission de la bonne nouvelle. Mais celle-ci, hélas, à travers nous, n'a pas tout le percutant qui éclaire, libère, convertit, guérit et entraîne autant qu'elle le pourrait ou le devrait. Disons-le franchement et tout bas, on a l'impression que le courant électrique, son courant de grâce, malgré toutes nos lignes de transmission et toutes nos pastorales, ne vient pas, est trop faible, ne se rend pas. Revenons à l'illustration numéro 1 et 2. Voyez, souvent obsédé par les étapes 2 et 3 du transport et de la distribution, nous avons négligé, à vrai dire, l'étape numéro 1, qui est celui de la production, ou de l'accueil de sa grâce de salut en nous et en Église d'abord. Et on conviendra que l'étape production, condition, est indispensable, devient le point de départ de tout et la raison d'être de tout ce qui s'ensuit. Notre force en Église est donc en bas du barrage, en bas de la centrale, donc en aval, vers les villes. Notre faiblesse, elle, se trouve en amont, au niveau de la centrale qu'est l'Église, où ses bergers, pasteurs et membres doivent aller chercher grâce et bénédiction à même leur réservoir en haut du barrage que Dieu nous offre. On trouverait ridicule, répréhensible même, n'est-ce pas, une compagnie hydroélectrique qui investirait trop ou tout son budget, son temps et ses efforts, uniquement pour assurer les lignes de transmission et de distribution, au point de négliger la production. Or, c'est un peu ce que nous avons fait. Mea culpa. Sur le plan de l'Église. Regardons l'illustration numéro 1. On voit bien que le pouvoir qui deviendra électrique est potentiellement dans le réservoir en haut du barrage et que c'est la pression d'eau de ce réservoir qui, en passant dedans et non à côté, en passant dans les turbines, est couplée aux génératrices qui va produire l'énergie nécessaire, laquelle va ensuite être acheminée vers les cités et les domiciles. Il y en est exactement de même de l'Église et de son message de salut, pour peu qu'on s'arrête à y penser. L'Église, mes amis, je le dis souvent, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et l'Église doit d'abord accueillir et recueillir le plus possible la puissance de grâce du Seigneur, mise en réservoir à sa disposition par le Seigneur, faire passer cette puissance de grâce qui transforme et transporte en elle d'abord, en elle comme centrale et en ses membres et individus. L'Église elle-même, électrisée ou électrifiée d'abord et à fond, pourra ensuite, et seulement alors, devenir électrisante ou électrifiante dans le monde. Le monde qui a été sauvé, racheté et déjà ressuscité par le Christ est électrisable par la transmission du salut, du message de salut. Mais à la condition que les messagers et messagères de la bonne nouvelle de Jésus soient eux-mêmes, d'abord, individuellement et communautairement, des bénéficiaires exemplaires de ce qu'ils ou qu'elles veulent proposer aux autres dans le monde moderne à évangéliser. Je dirais à la blague, on ne donne des chocs spirituels aux autres si l'on est soi-même au courant, branché, selon un anglicisme populaire chez nous, on dirait plugué. Voilà, mes amis, à mon et notre humble avis aux fondations Pax Vobis et que ton règne vienne, le grand point faible de l'Église. Il est peut-être explicable, pardonnable, ne nous sentons pas indûment coupables, mais il est à corriger sans délai. Retournons à l'illustration numéro 3. Je vous fais voyager, hein, mais il n'y a rien comme des images, il paraît que ça compense pour beaucoup de mots. Regardons là l'image numéro 3. Cette forêt de méthodes d'évangélisation de communication, de pastorale, que nous avons érigé pour mieux transmettre le message du Seigneur au monde. Cette forêt, elle est fascinante. Mais elle peut être aussi bien accaparante et distrayante. On sait qu'un rien, trop de froid, de vent ou de chaleur, amène des complications dans l'entretien de ces pylônes, de ces lignes de transmission, de ces points de contact. Eh bien, il en va de même de nos pastorales. On peut facilement s'ambitionner, ajouter, compléter, discuter, réviser, perfectionner nos pastorales, aller vérifier sans cesse. Et c'est ce qui est arrivé. On peut se laisser accaparer et obséder par notre quincaillerie pastorale, par toutes les joutes intellectuelles qu'elle suscite, tout autant qu'on l'a été si souvent jadis, par la quincaillerie matérielle durant nos constructions d'églises, d'édifices et les problèmes financiers et administratifs qui en découlaient. On aura beau dire et protester, mais vous comme moi, vous le savez, allez voir se comporter nombre de bergers et de pasteurs nous donne aisément l'impression de se complaire davantage dans les études et les activités de maintenance institutionnelle de l'Église que dans celle de sa vraie relance spirituelle. Pour eux, c'est plus concret et peut-être moins dérangeant, moins interpellant. L'heure est venue, mes amis, de rééquilibrer le tout. Il ne s'agit pas de renoncer à notre souci d'être présent au monde, pas du tout, mais d'intensifier notre présence au Seigneur pour qu'il soit fortement et réellement à l'œuvre en chacun de nous, au milieu de nous et à travers nous, en Église que nous sommes. Seul son courant peut faire de nous de vrais générateurs au barrage, de vrais transmetteurs sur la route, de vrais transformateurs et adaptateurs à la distribution de son message, de son courant de grâce. Et c'est ça, un vrai pasteur, un vrai berger, un leader spirituel. C'est pas un verbomoteur spirituel, mais c'est un transmetteur d'énergie spirituelle, prise au contact du Seigneur et retransmise avec le message de salut. Alors, le message de salut ne fait pas qu'atteindre les oreilles des autres ou s'inscrire en noir sur blanc, page après page, sur une foule de documents. Le message de salut jouit alors d'une onction spéciale du Seigneur. Pénètre, ouvre les cœurs et l'esprit, agit peu à peu en celui et celle qui l'a reçu. D'ailleurs, je reviendrai sur ce point un peu plus loin. Mais disons en passant, cette réflexion, un berger ou un pasteur ne transmet vraiment tout le contenu du message de salut que si sa grâce de salut au Seigneur est vraiment contenue dans le message et le messager. Voilà donc, mes amis, la question importante. Et elle porte sur nous, bergers, pasteurs, fidèles leaders, en Église. Et on n'a pas le droit de l'esquiver. Très souvent, et je dirais même trop souvent, au cours des dernières décennies, dans nos évaluations pastorales, qu'elles soient paroissiales, diocésaines, provinciales ou nationales, dans nos rapports, dans nos redditions de comptes à nos supérieurs immédiats, au pays ou à Rome, on a surtout eu tendance à expliquer pourquoi nos ouailles, ou les membres et les fidèles sous notre juridiction, croient moins, pratiquent moins, témoignent moins. On est souvent allé chercher pour ça, pour se faire des savantes explications sociologiques, psychologiques, voire même économiques, politiques, culturelles. Nos rapports annuels, bisannuels ou quinquennaux sont bien intentionnés, honnêtes et sincères, plausibles et bien faits. J'en conviens. Cependant, je les trouve 3 fois sur 4 nettement incomplets. À mon avis, ils esquivent trop souvent l'essentiel, à savoir l'insuffisance de notre qualité spirituelle de berger, de pasteur et de leader. On parle trop de la lacune des fidèles, mais pas assez de la nôtre. Prenons, et je vois qu'on me fait signe qu'il reste à peine un petit moment, et je ne voudrais pas donc, au moment où on va tourner la cassette, couper, alors j'arrête immédiatement. Et on va reprendre en réfléchissant sur cette grande leçon, ce grand enseignement, ce grand défi qui nous est lancé par la visite récente de Jean-Paul II au Canada. Alors, à tantôt.